Il est 11h, c'est l'heure de la maraboutique.
Manu Dibango sur Africa numéro 1, la maraboutique.
Maraboutique du dimanche matin. Tito, on se la prend cette Bastille.
Musicalement et dans la mélodie, et on la prend dans la mélodie, pourquoi? Parce que nos amis de Frémaux et Associés ont encore frappé non pas un, mais deux grands coups. Avec Cuba Jazz, formidable compilation des trésors entre 56 et 61.
Et il frappe toujours dans le lourd. Hein.
Alors là, quand on regarde la pochette, on se dit qu'il y a vraiment, vraiment des choses à découvrir. Ils y vont jamais avec le dos de la cuillère, il y a toujours au moins 50 titres dans leur coffret.
Ah oui, ils sont généreux, ça
pour plonger dans cette période extraordinaire, en tout cas de la musique cubaine, parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, le régime se renforce de plus en plus, les frontières commencent aussi à fermer, mais au niveau de la musique, eh bien, c'est déjà une belle explosion.
Batista, ses jours sont comptés.
Oui, déjà, aussi. Et alors, ça nous amène toujours dans cette période, parce que Frémaux, ce qu'il faut dire, c'est que la mémoire collective, hein, c'est ce qu'ils disent par rapport à ces collections, nous fait entrer dans la musique, mais également dans l'histoire avec des livrets. Toujours très bien fourni, très bien
documenté. C'est une des rares maisons de disques encore existantes.
Encore existantes, d'ailleurs, qui fait cet effort,
voilà,
d'ailleurs.
C'est un effort
toujours
terrible.
Toujours trouver des choses. Et là, pourquoi double plaisir? Parce que l'indispensable Jerry Lee Lewis, enfin...
Ah oui, le casseur, le piano, là.
Il le fallait... Alors, on se souvient évidemment de la posture de l'artiste. Alors, il montait sur le piano, il jouait avec le pied, enfin bon, bref. Ça, c'est un véritable showman, le Dohamnou, comme on n'en fait plus beaucoup.
Oui, avec une vie particulière quand même.
Aussi.
Il aménageait les deux, je ne sais pas dans quel ordre, mais c'était un monsieur, ça sentait le soufre. Hein.
Alors Jerry Lee Lewis, ça c'est la période 56-62.
C'est sa belle époque. Hein.
Sa belle époque avec Lewis Boogie et tant d'autres. Et puis il y a la fameuse mèche qui a inspiré les Stray Cats un peu plus tard dans les années 80. Jerry Lee Lewis qui fait partie, dit-on, du panthéon musical de la musique. Alors avec des influences qui sont pas toujours blondes aux yeux bleus.
Hein. Non, c'est jamais. Alors je peux te dire que... Quand lui, il avait joué sur un piano, il avait besoin de deux ou trois accordeurs après.
Hein. Il y jouait franchement.
Ah oui, alors là, c'est un monsieur qui, dans le rock and roll de ces années-là, c'était du violent. Hein.
Et alors, autre chose, ça c'est au registre littéraire, notre confrère Mouftaou Badarou, qui signe un ouvrage, La vengeance d'Aïcha Kadhafi, service secret français. C'est un livre alors qui se lit et qui se dévore, Dixit Stéphanie Hartmann, qu'on embrasse rapidement, avec des scénarios qui étaient susceptibles de se produire dans la capitale française. Je ne vous en dis pas plus, Aïcha Kadhafi, qui est la fille du guide, et qui, pour le dire de manière très globale, a un compte à régler avec les autorités françaises.
Eh ben, vous n'avez qu'à l'acheter, vous verrez. Ben, il y a eu un silence, il y a eu des Dolby pendant un certain temps, et puis on dirait que ces Dolby sont en train de s'effacer et que, en tout cas, une autre face visible de l'iceberg commence à apparaître. Et que des noms circulent, des dates, des choses, des papiers et tout ça, on en parle de plus en plus. Le bruit est en train de s'organiser, on dirait. Hein.
Et oui, et ce sont toujours les aventures donc de cet agent de la DGSE, Jimmy Boris, que Mouftaou Badarou avait déjà mis en scène dans Panique à Cotonou en 2014 et Putsch à Libreville en 2015. Des scénarios qui se rapprochent peut-être de la réalité. L'auteur, qui est un éminent journaliste et écrivain, vous laisse à votre réflexion. En tout cas, sacré coup de chapeau à toi, Mouftaou. Faudra que tu viennes nous en parler. Et ce sont les éditions Licht, L-I-C-H-T.
Oui, nous, on essaie de vous donner, de vous mettre l'eau à la bouche, parce qu'il faut que chacun se fasse son opinion en lisant ce livre-là.
Des livres, il y en a eu, le Dohamanou, concernant une icône disparue du côté de la Cité des Anges. C'était un 25 juin 2009, à 14h, heure locale de Los Angeles. La planète écoutait avec effroi les nouvelles du jour ou du soir concernant le King of Pop.
Oui, tu vois, Tito, je peux difficilement l'oublier parce que j'étais sur un lit d'hôpital. Je me rappelle de cette date-là. J'avais subi une opération. Et donc, voilà. Et puis, j'entends ça un matin. Vu l'histoire que j'ai déjà avec Michael Jackson, c'était l'histoire personnelle que beaucoup de gens... Alors, cette histoire-là, à propos, en Afrique...
Revient comme le serpent de mer.
J'aurais jamais pensé que les Africains, la première des questions qu'ils me posent à chaque fois qu'il y a une conférence de presse, alors...
Vous en êtes où?
Il dit, mais le combat, c'est ça. Mais c'est incroyable, même chez les... D'abord, j'ai eu ça chez les lusophones, hein, à Mozambique, et puis tout dernièrement en Ouganda, et puis au Kenya. La première des choses, alors est-ce que c'est vrai? Alors vous en êtes où? Est-ce que comment tu t'en es tiré?
Toujours.
Alors pour revenir à Michael Jackson, les destins des uns et des autres sont toujours liés, on ne sait pas comment.
Eh oui.
Ils étaient d'ailleurs toujours liés culturellement, artistiquement, parce que c'est l'un des génies du XXe siècle quand même, ce garçon.
Absolument.
Et on les a connus, nous, quand ils étaient les Jackson 5, quand lui avait 4-5 ans, quand il venait à l'Olympia. Et nous, à cette époque-là, on rêvait d'aller aux États-Unis. Et voilà que la Tamla avait amené une tournée où étaient ces cinq garçons. Des découvertes extraordinaires. Un talent. Quand ils étaient à cinq, il y avait le talent. Autant alors, il a sublimé, lui, personnellement, le talent quand il est devenu lui-même tout seul, quoi.
Et en prenant la lumière, et après les albums solo du début des années 70, ce sera la rencontre lors du tournage du film de Sidney Lumet, The Wiz, avec Quincy Jones, en 77-78, qui va tout sceller et accélérer son ascension avec trois albums solo, en l'occurrence Off the Wall, Thriller et Bad, qui deviendront en tout cas la trilogie mythique avec Quincy.
Oui, il a eu la main heureuse, parce que Quincy était le parfait arrangeur qu'il fallait à cette époque-là, parce que Quincy, c'est un génie très éclectique, qui peut te faire du Count Basie, qui te peut te faire des albums avec Sinatra, qui te Sarah Vaughan et ça, mais aussi dans la pop, on oublie souvent les George Benson, le succès, la Broadway et tout ça. C'est encore Quincy Jones. À chaque fois qu'il prend sa plume, Il y a de l'or là-dedans pour la personne qui doit interpréter le résultat de sa plume. Ça, c'est sûr. Et là, ce garçon est tombé au bon moment et il n'a écouté les conseils de personne, parce que sûrement son entourage n'aurait pas voulu, parce que comme Quincy était connoté très jazz, ça effrayait un peu les gens de la variété, quoi.
Oui.
Autant il a eu d'ailleurs beaucoup de difficultés à faire des musiques de films, parce qu'on croyait qu'un noir ne pouvait pas à Hollywood faire des musiques de films. Autant quand il s'agissait de faire la variété, les gens étaient un peu, les maisons de disques, en tout cas les majors étaient un peu réticents, jusqu'au moment où il a commencé à sortir les Benson et tout ça. Et que Michael Jackson a eu le nez, au bon moment, réellement, de tomber sur Quincy. Et Quincy a joué le jeu, et avec son génie, tous ses albums sentent réellement la plume de Quincy.
Et demain, ce sera donc le 9e anniversaire de la disparition de Michael Jackson, un artiste, et ça fait froid dans le dos quand on connaît le contexte dans lequel il a disparu, a engrangé depuis sa disparition plus $1 milliard, comme le rappelle allègrement la presse américaine.
Mais il est riche, plus mort que vivant.
Posthume.
À titre posthume, il y a des gens qui se régalent, qui se pourlèchent les babines, parce que... Alors, pour continuer l'histoire de rapidement, hein, Quincy, il a mis aussi la main sur Richard Bonham, maintenant, donc c'est bon signe pour Richard, hein, c'est parce que quand Quincy met la main sur toi, logiquement,
ça devra aller.
Il y a quelque chose au bout. Ceci étant, donc pour les Jackson, Il a tellement mis son empreinte dans tout le show business du siècle dernier que jusqu'à présent, cet album que les jeunes n'ont pas connu, en tout cas, ils se précipitent, les parents leur parlent, et puis sa musique parle aux jeunes jusqu'à présent, ne serait-ce que parce qu'elle était physique et que c'est pas de danse à lui. Qu'est-ce qu'il n'aurait pas voulu danser comme Michael Jackson, hein?
Et c'est vrai que c'était une prouesse chorégraphique de la part de celui qu'on surnommera plus tard Wacko Jacko, avec des scénarii et des clips d'anthologie. Le premier tout simple extrait d'Off the Wall, c'est de le voir danser, démultiplier à l'écran en smoking sur Don't Stop Till You Get Enough. Et là, la magie opère déjà grandement.
Oui, parce qu'il avait le don pour le son, mais également la vision qu'il avait de la caméra. La façon de faire bouger la caméra autour de lui, de faire bouger les lumières autour de lui, en fait, le body and soul.
Voilà. Le body and soul, c'est également la trouvaille de Billie Jean, avec le fait de toucher des objets qui s'illuminent dans un clip réalisé par Steve Barron, d'ailleurs un ponte de la publicité. Là encore, il fallait tenir le pari.
Il fallait aller trouver ce ponte de la publicité pour le convertir en musique. Et pour trouver toutes les trouvailles de Billie Jean, maintenant tout le monde s'en sert, hein. C'est un tout petit peu comme le danseur qui marchait sur les murs, là, je sais plus comment il s'appelle. Voilà, et tout le monde se sert de ces trouvailles. Et les changements de couleurs qu'il y avait, black and white, là, tu vois. À chaque fois, il y avait toujours une trouvaille, il y avait un gimmick qui arrivait dans chaque clip, comme dans chaque disque, il y avait toujours des gimmicks qui fonctionnait avec les morceaux en question.
Et des clips comme des mini-films, à l'instar de Thriller, réalisé par John Landis, qui deviendra le clip le plus célèbre de l'histoire, et qui est d'ailleurs entré très officiellement dans la bibliothèque du Congrès américain. C'est un honneur suprême, puisqu'on y trouve aussi la Constitution.
Oui, mais c'est pour vous dire qu'il a marqué son pays et son époque.
Enfin, Bad, pour clôturer la trilogie avec Quincy Jones, qui sera aussi l'album le plus attendu avec une des tournées les plus lucratives de l'histoire. Et là encore, un clip réalisé par un autre géant du cinéma, Martin Scorsese.
Bad. Alors tiens, j'ai une anecdote à propos de Bad. Quand Soul Makossa est sorti, je suis sorti dans une maison de disques ici. Les gens, pourtant c'est eux qui produisaient les Rolling Stones et tout ça, Soufrasson, ouais, DK, mais là-dedans je crois que personne ne parlait l'anglais. Quand le disque a commencé que les Américains commandaient des disques par 5 000, 10 000, ça s'était jamais vu en France que on commande des disques aux États-Unis parce qu'on ne trouvait pas qu'est-ce qui avait fait le disque, tout ça. Voilà, on ne pouvait pas penser comme petit Africain dans un label et tout. Alors, la première critique qu'il y a eu dans Rolling Stone, c'est « The record is bad ». Bon, quand c'est arrivé ici, il y en a qui disaient « Vous voyez, on vous a dit que le disque-là est mauvais
!» Traduction littérale.
Et voilà, voilà. Donc, pour te dire, hein, on vient de loin quand même.
En tout cas, ce Bad est un des titres qui, jusqu'à aujourd'hui, est encore très joué. Alors, l'année dernière, on a célébré les 30 ans de l'album Bad. Enfin, maintenant, comme on dit, les labels ont de l'imagination.
Oui, en tout cas, ils ont un fonds de commerce ad libitum, hein. Voilà, donc c'est la première partie, Don't Stop Till You Get Enough.
Billie Jean.
Thriller.
Et Bad.
Et donc ce fameux jukebox qui va faire du bruit.
You know, I was wondering, you know, if you keep them, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like
love. It's the feeling of love.
Manu Dibango sur Africa numéro 1. Africa numéro 1. Bingo sur Africa numéro 1.
Signé Michael Jackson, et demain 25 juin, à tous les coups, et évidemment, vous écouterez la musique du King of Pop, pas simplement sur le sol de France, mais dans toutes les contrées du monde.
Ouais, je crois qu'il y aura des messes un peu partout, hein, parce oui. que, voilà, il y a déjà des messes, ça n'a rien à voir. Aussi, peut-être, toutes les semaines ou une fois par mois, il y a une messe ici pour Johnny Hallyday.
Donc, absolument. On se recueille à la Madeleine, toujours très, très religieusement. Alors après, il y a tous ceux qui, du côté du Forest Lane Cemetery, là où repose la star, pas loin de Liz Taylor d'ailleurs et toutes les autres stars d'Hollywood, beaucoup croient qu'il n'y est pas. C'est le fameux Jackson hoax. Comme toutes ces légendes, oui. Est-ce qu'Elvis est mort, Marilyn, ou encore tout
ça, Hitler serait au Brésil, ou je sais pas, dans un pays
d'Amérique. Sur une île déserte.
Mengele et tout ce monde-là.
Ce qui fait qu'à chaque fois, on demande à des proches à lui et des membres de sa famille, est-ce que vous pouvez nous dire s'il est vraiment mort? On l'aperçoit des fois dans les centres commerciaux, enfin, tout ça est très américain.
Presley, il est dans la liste, hein, tu l'as cité, mais c'est vrai que beaucoup de gens sont encore convaincus qu'il est pas mort, hein.
Voilà. En exigeant la dernière photo, comme d'habitude, pour les tabloïds. Alors, Michael Jackson doit manouser également de grandes collaborations, certaines moins connues que les autres, comme avec Lenny Kravitz ou encore Freddie Mercury ou Sinatra, mais il y en a de beaucoup plus connus.
Ah oui, Paul McCartney, ça a été non seulement connu, mais visible, hein, le c'est qu'est-ce qu'il n'a pas,
scénario
vu ça
à la période western de l'affaire, avec Sir Paul McCartney, qui après piquera une colère noire quand Michael obtiendra les droits d'auteur des Beatles.
Ça c'est le côté business.
Businessman.
Voilà. Vous tournez la page, vous tombez sur le business. Alors c'est en noir et blanc aussi, beaucoup de noir et très peu de blanc, hein. Alors, quant aux cas, intentions.
Aux intentions. Mmh. Et puis, à ce mélange, c'est pas un duo, c'est carrément un collectif d'artistes qui est arrivé bien après Tam Tam pour l'Éthiopie. We Are The World, Michael écrit avec Lionel Richie, ce morceau où eh ben, une pluie de stars viendront poser leur voix.
Il faut dire que c'est un moment de grâce parce que c'est un très beau morceau. C'est un moment de grâce pour Quincy Jones parce qu'il a su trouver l'arrangement qui convenait. Aussi bien ceux qui ont filmé, c'était un très beau moment pour une triste histoire d'ailleurs.
Et oui. Et enfin, I Just Can't Stop Loving You, c'est un duo avec Saïda Garrett, qui est une artiste qui évoluait dans l'écurie de Quincy, parfaite inconnue, qui en 87 donne donc sa voix pour ce titre, extrait de Bad, et ça va la propulser vraiment en orbite, puisqu'elle partira en tournée avec Michael Jackson, et que les gens vont découvrir le talent jazz, cat, blues, soul de cet artiste, que personne n'avait repéré, et que Jackson... dont Jackson avait adoré la voix.
Voilà, la révélation. À chaque fois, quand il prenait quelqu'un pour une partie, que ce soit pour la danse, que ce soit pour les chœurs, que ce soit pour des featuring, tout le monde qui gravitait autour de lui était plein de talent.
Un immense talent pour écouter en tout cas Michael Jackson et les duos dans cette deuxième partie.
On y va.
Take.
Bongo sur Africa numéro 1.
Must come together as one.
Manu Dibango sur Africa numéro 1.
Michael Jackson, The King of Pop, 9 ans demain depuis sa disparition, et alors des titres, des albums et certainement des albums posthumes à suivre, car il y a beaucoup de morceaux enregistrés et qui restent là, reste à savoir comment les mettre en sauce, avec quels arrangeurs. C'est le casse-tête.
Eh ben, tu verras avec Johnny aussi le nombre de bandes. Ils ne sont pas sortis, les uns et les autres, on a fait des bandes, qui sont bien conservées dans les bonnes maisons. On attend que tu disparaisses pour que de temps en temps, comme par hasard, inédit arrive. Jimi Hendrix, on a trouvé il y a, je sais pas, quelques mois, on a trouvé des inédits de Jimi.
Une autre star d'ailleurs, c'est Prince, d'ailleurs, dont on a réédité un titre inédit, une version de Nothing Compares to You. Enfin, il y en a toujours dans ce qu'ils appellent The Vault, c'est-à-dire la grande malle où on trouve un peu de tout.
En fait, c'est ça qui fait travailler les maisons de disques en réalité. C'est le fond de commerce. Next week, la semaine prochaine.
Et oui, à 10h de Paris sur les 107.5 FM. pour écouter notre émission. En attendant, c'est Art Africa.
Voilà, et comme d'habitude...
Africa numéro 1.